Bonjour à toutes et à tous, je suis entouré de livres aujourd'hui puisque je me trouve dans une librairie française à Jérusalem qui s'appelle Vice Versa et j'ai le plaisir d'avoir face à moi, qui me reçoit, Denise Beribi. Denise, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous.
Alors, une librairie française à Jérusalem, c'est original. Quand est née, pardon, cette aventure ?
L'aventure, elle est née en l'an 2000. On a ouvert en juin 2000, fin juin, début juillet. On aime à dire qu'on a ouvert le 14 juillet, mais c'est pas exactement. Mais c'est bien, ça nous fait. Et alors, elle est d'autant plus originale qu'en fait, c'est une librairie vice-versa. C'est parce qu'on a toute la littérature israélienne traduite en français et toute la littérature française traduite en hébreu.
Ah ah.
C'est pour ça que ça s'appelle. C'est encore plus original que ce que vous pensiez quand vous êtes rentré dans la librairie. C'est tellement original que le CNL, le Conseil national du livre, nous prend pour exemple. Hein. Ils font des conférences sur nous dans le monde entier. On est la première au monde à avoir fait ça, apparemment. Je veux dire, avoir fait ça systématiquement. On a tout ce qui sort en France, en hébreu, traduit du français. On le reçoit automatiquement, enfin on l'a automatiquement. C'est marrant comment on devient une institution malgré soi, quoi, parce que nous on n'a pas trop cherché. Hein. Nous on s'amuse, on aime bien vendre, on aime bien faire des rencontres, on aime bien faire des trucs de dingue un petit peu. On est un peu malade. Quoi.
Donc votre public cible est assez large finalement.
Il est immense, il est immense. Mmh. Alors celui dont j'aime parler d'abord, c'est les Israéliens francophones qui n'ont pas forcément jamais vu la France. Mmh. Alors c'est beaucoup, vous savez qu'au 19e siècle, le baron de Hirsch a créé l'Alliance universelle israélite.
Oui.
Il a décidé que dans le monde, il n'y aurait pas un seul juif analphabète. Alors c'est marrant, parce qu'au 18e siècle, fin du 18e, début du 19e, il y avait les gens très riches qui apprenaient le français et les juifs pauvres qui apprenaient le français. Et dans le monde entier, il l'a installé dans le monde entier, c'est son école. Et l'enseignement était fait en français. Donc vous avez des gens qui sont nés en Bulgarie, au fin fond de la Russie, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Mes parents, par exemple, parlent français. En Argentine, partout où il y avait des juifs, il y avait l'école dont ils apprennent en français, donc ils connaissent le français. Ces gens-là, qui sont maintenant des personnes plus âgées, hein, parce qu'ils ont étudié, ils sont arrivés en Israël pour les Russes, peut-être il y a seulement 20 ou 30 ans, mais pour les Marocains ou les Tunisiens, c'était au début de 48, 50. Mm-hmm. Donc ceux-là lisent en français classique. Eux, c'est pas le genre, la littérature moderne, ils aiment pas bien, ils connaissent moins bien. Et donc ces gens-là, c'est beaucoup de poésie, beaucoup de littérature classique. Ensuite, on a les gens qui viennent travailler ici. Il y a beaucoup les gens du consulat, les gens des prêtres, qui sont là pour quelques années seulement, vous savez. Donc, ceux qui sont venus pour faire le tramway. Le tramway, c'est les Français qui l'ont fait, c'est Alstom.
Alstom, exactement.
Absolument.
On n'est pas très loin, d'ailleurs, de la rue Yafo.
Absolument. Absolument. On est à une station du tramway. Il y a aussi beaucoup, enfin, évidemment, les Juifs qui ont fait leur alia. Ceux qui ont fait leur alia il y a longtemps viennent. Les derniers, comme ils voyagent encore beaucoup, vous savez, l'alia Boeing. Le père travaille en France. Eux, ils ramènent assez, peuvent ramener leurs livres. Mais les femmes, les enfants qui sont là, ils achètent des livres.
Comment fonctionne la librairie
Alors, on est trois associés. Nadine qui fait les commandes, qui lit les livres. Parce qu'il faut lire des journaux. Hein. Il y a un paquet de journaux pour savoir les livres qui vont sortir. En général, les livres, ils sont annoncés six mois avant ou sept mois avant. Des fois, ils changent de titre. Hein. C'est un vrai travail. Hein. Mmh. Et Nadine, elle aime bien, parce qu'elle est un peu sauvage. Elle préfère travailler avec son ordinateur qu'avec des gens. Daniel s'occupe de la gestion, parce qu'elle a toujours géré des boîtes. C'était son boulot avant. On n'était pas libraire, on n'est pas nul libraire. Hein. Et moi, je m'occupe plutôt d'abord des relations publiques, et puis tout ce qui est avec l'hébreu, c'est moi qui m'en occupe. Moi, j'étais guide. Nadine, elle était médiathécaire. Et Daniel était Elle avait une boîte de d'immobilier. Et je sais pas. Je rêvais depuis que j'étais petit d'avoir une librairie, mais enfin comme on rêve de n'importe quoi, hein, c'est pas obligé de le réaliser. Mais une année, Nadine, elle avait une grande maison à gérer, et comme je suis un peu dingue, je lui dis, bah si on faisait ci, si on faisait ça, donc on s'est mis à faire des petits déjeuners de jazz, des trucs de dingue. Et puis à la fin, quand elle a fini de travailler, quand elle a fini sa période, elle a dit, oh, ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. C'était en l'an 2000, on rêvait qu'il y allait avoir la paix, et que ça allait se faire quasiment à la librairie. Puis le pays était riche, il y avait des centaines de touristes, comme moi j'étais guide. J'étais même pas censé travailler à la librairie, hein, parce qu'une librairie, ça gagne pas beaucoup d'argent. Moi j'étais censé amener les gens, voir dans le pays ce qui se fait, donc acheter les livres.
Parce que c'est un peu une gageure quand même, même si c'est à Jérusalem et que vous avez des idées très originales. Et que vous avez beaucoup d'énergie, c'est toujours très difficile de...
Ah non, mais ça n'a rien à voir. Hein. Si on avait voulu... Si on s'était dit, bon, allez, on ouvre un truc pour devenir riche, on aurait ouvert un falafel. Hein. Parce que les gens, ils mangent. Hein. Avec les livres, c'est d'autant plus difficile que ça vient de France, que le transport, c'est hyper cher, que comme on est en Israël, on n'est pas subventionné, qu'il faut rajouter 18% de taxes. Donc ça fait les livres chers. On se bat comme des beaux diables pour avoir... Bon, c'est vrai qu'on... En 15 ans maintenant, on est arrivé avec des éditeurs à avoir des super prix. Donc, pour une grande partie des livres, pas tous encore, mais on peut continuer à rêver. Il y a plein de livres qui sont au même prix qu'en France. Hein, même pas, ça couvre la TVA et le transport. Ouais.
Vous avez un public fidèle.
Oui, on a un public fidèle. Et honnêtement, je pense que même ceux qui ont essayé Amazon ou Fnac parce qu'ils pensaient que c'était moins cher... C'est peut-être moins cher, mais tu te plantes. Tu vois un titre, tu l'achètes. Puis après, nous, par exemple, nos clients, ils veulent acheter un livre. On dit non, celui-là, il n'est pas pour toi. Ça, c'est clair. Et puis, on ne discute pas avec ça. Quoi. Alors, peut-être qu'il le paye plus cher, mais il a économisé aussi. Parce que ceux qui vont en France aussi, moi, je sais, je faisais comme ça avant d'ouvrir la librairie. Tu vas en France, tu achètes un jour de pluie, tu achètes 20 livres. Et quand tu arrives ici, il fait 40 degrés, c'est pas la même chose, tu lis pas la même chose. Mmh. La lecture, c'est quelque chose qui s'adapte à toi. C'est vrai. C'est quelque chose qui varie selon, je sais pas, les jours de pluie, les jours de soleil, les jours où t'en as marre, les jours où t'as envie de tuer, les jours où t'as envie de te tuer. Tu lis pas la même chose. Tu prends pas la même... Parce qu'en fait, on se jette sur une... Qu'est-ce qu'on fait quand on achète à la Fnac 10 bouquins d'un coup? On se jette sur la couverture. Mais quand les gens y rentrent ici, ils se jettent pas sur la couverture. On leur dit ce qu'il y a dans le livre, parce que nous, on l'a lu. Parce on leur envoie des... Il y a des newsletters, on leur parle des livres. Il y a le site, on leur parle des livres.
Oui, ils se jettent sur vous, en fait.
Ils se jettent sur nous, absolument. Et nous, sur eux, d'ailleurs. On vient boire des cafés, enfin, sauf ceux qui sont toujours très pressés, mais en général, il n'y a jamais personne qui est pressé. Quand on vient dans une librairie, on ne vient pas. Donc, on sert le café, on papote, l'eau s'il préfère, le thé.
Donc librairie comme lieu de rencontre aussi.
Ah mais oui, mais plus que ça, c'est un lieu de vie quasi. Enfin, Jérusalem, c'est comme un grand village, même petit village d'ailleurs, petit. Donc, mais nous, on est, c'est pas la rencontre pour aller dire du mal, quoi, non. Nous, par exemple, d'abord, ils viennent, ils se rencontrent, alors on présente les uns aux autres, puis ça fait des belles rencontres. Quoi. Des fois, c'est des touristes qui viennent. Aussi, on a des écrivains qui viennent. Alors, soit des Français qui passent par là et qui viennent, soit des Israéliens à qui on demande de venir. Mais voilà, c'est toujours quelque chose d'extrêmement vivant.
Comment peut-on se mettre en contact avec vous?
On a un site, alors... Les commandes par site, pour l'instant, on les a suspendues parce que quand il y a eu, je sais pas, il y a eu un moment, une histoire où il y avait des piratages, on est mort de peur. On est vraiment, ouais. Alors, ma soeur n'avait pas envie, mais on peut commander par le site, et nous, sans mettre la carte bleue, nous, on téléphone. Et, ouais. Normalement, les gens, ils mettent leur numéro de carte.
D'accord.
Et on leur envoie, mais bon, Là, en ce moment, on préfère que les gens ils commandent, on leur dit combien ils doivent. Soit ils envoient, enfin, si c'est dans le pays, ils envoient un chèque ou ils téléphonent, ils donnent leur numéro de carte. Si c'est en dehors du pays, nous, on téléphone et ils donnent leur numéro de carte. Et on envoie par la poste. On envoie dans le pays, on envoie en dehors du pays. On a c'est original, les gens qu'on a. On a une Algérienne, qui une Arabe, dans la banlieue parisienne, qui nous commande des livres de cuisine en hébreu.
En hébreu.
En hébreu. Alors, elle préfère la pâtisserie, mais elle a un paquet, là, maintenant, ça fait au moins 4 ans, à raison de, je sais pas, une dizaine par an. Elle en a pas mal. Elle en a pas mal.
C'est original.
Oui.
C'est original.
C'est amusant. En hébreu. Mais moi, je lui demande, mais attends, vous écrivez en hébreu, non. Mais comment vous faites exactement? Ben, je rentre dans Internet, je regarde. Elle fait ça par Internet. Ok. Je lui dis, vous savez, il y a le même en anglais, vous... Non. Ok. Et ben, elle aussi. Donc, elle a une quarantaine, une cinquantaine maintenant de livres. Elle est marrante. Hein. Mm-hmm. Voilà. Et sinon, on a des gens, je pense, à peu près partout. Bon, on n'en voit pas tous les jours 50 livres aux États-Unis et 120 en Afrique, hein, mais on a des clients à Los Angeles, à Miami, je crois, à Tananarive, au Bénin. Au Bénin, c'est un prince.
Ah, mais c'est bien ça.
Il est venu une fois dans un magasin. Je l'ai regardé, mais c'est étonnant quand même.
Quel genre de livre lit un prince bénin?
Alors lui, il ne lit quasiment que des trucs sur le judaïsme. Il est musulman. Il est venu chercher une femme ici, je crois. Enfin, une des femmes qu'il a, parce que bon, je ne suis pas rentré dans les détails. Hein. Mais il m'a demandé de lui trouver Laurence Pernoud en arabe.
Okay.
Bon, j'ai pas trouvé tout de suite. Celui-là, j'ai pas trouvé. Mais sinon, il a lu tout Chouraki. Ouais. André Chouraki, il aime beaucoup. Sur le judaïsme, il aime beaucoup. Il se renseigne.
D'accord. Donc en général, ce sont des gens qui sont venus vous voir ici personnellement et puis ils sont retournés dans leur pays et ils sont toujours en contact avec vous.
Ouais.
C'est une façon
ou alors, par le site, ils ont trouvé un livre qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. Alors par exemple, en France, on a des gens qu'on n'a jamais vus de notre vie, mais donc, ils habitent des petits bleds en France, moi je ne connais pas, je ne sais même pas où c'est. Hein. Mais qui veulent lire certains livres en hébreu, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien.
Pour terminer, quel sentiment vous inspire le fait d'être un peu le relais entre la culture française et la culture israélienne?
Je sais pas, moi je suis né dans la culture française, je suis né en Tunisie, mais dans la culture française. J'étudie à l'école, j'ai le lycée en Tunisie, ensuite je fais la fac en France. J'ai toujours vécu dans... Enfin, moi mes premiers émois littéraires c'était en français, et c'est vrai que c'était quelque chose d'extraordinaire. Ceci dit, quand je suis arrivé en Israël et que j'ai commencé à lire en hébreu, c'est fabuleux. Et puis, la première fois, c'est quand j'étais très amoureuse et je voulais absolument que mon compagnon lise les livres que j'aime, quoi. C'est important. Manque de bol, ils n'étaient pas traduits. Ou je ne savais même pas s'ils étaient traduits. Je faisais des crises de nerfs parce que personne ne me comprenait forcément. Enfin, j'allais dans les magasins, ils ne savaient pas d'où ils sauraient ce qui est traduit en français, ce qui n'est pas traduit en français. Voilà, alors c'est pour ça qu'en fait, j'aime ces deux langues. J'aime les mots, j'aime les deux langues, mes associés aussi. Et voilà, le résultat, c'est... Ouais, je crois que si on n'aime pas d'amour une langue... Ou les mots, on n'ouvre pas une librairie.
Denise, merci beaucoup.
Merci à vous.